citation que j'ai proposée est tirée de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique à prier sans cesse. Alors, je suis très heureux parce que c'est pas dit à des moines. On aime facilement réserver cette tâche de la prière aux moines. Je réagis toujours parce que ce n'est pas juste. Nous ne sommes pas des spécialistes exclusifs de la prière. Ce commandement, c'est un impératif qu'utilise Paul, prier sans cesse. Ce commandement s'adresse donc à tous. C'est la première remarque que je vais faire. À tous, à tous les baptisés. On trouve dans l'enseignement de Jésus, dans l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 18, verset 1, une mention tout à fait semblable. Lorsque Jésus exhorte ses disciples à prier sans cesse et à ne pas se décourager. Si vous vous souvenez de l'épisode, c'est celui de la veuve importune et du juge inique. Si on fait la transposition, le pauvre Dieu, il est comparé à un juge inique qui finalement s'exécute tellement on lui casse les oreilles. C'est ça l'image. Mais Jésus utilise vraiment la même expression, prier sans cesse et ne pas se décourager. Alors, quand on dit prier sans cesse, est-ce qu'il s'agit d'une pure utopie? Au fond, est-ce que c'est réalisable? C'est là-dessus que je veux commencer par réfléchir. Et pour ça, je veux m'arrêter principalement sur, peut-être, on va dire, trois obstacles majeurs à la prière, auxquels nous sommes tous confrontés, je vous console tout de suite, moi comme les autres. Le premier, c'est celui de ce que j'appelle notre état perpétuel de distraction. Nous sommes des êtres, malheureusement, distraits. Il y a quelques jours, on entendait dans un des évangiles une phrase qui m'a beaucoup interpellé et que je n'avais jamais entendu de cette façon. Lorsque Jésus nous dit « qui n'amasse pas avec moi d'ici ». Or, combien de fois dans nos journaux, nous amassons sans lui. Amasser, pour moi, ça recouvre toute l'activité humaine. Combien de fois nous nous pensons, nous agissons, de fait, comme si le Christ n'était pas là. Eh bien, Jésus nous dit, dans ce cas-là, vous dissipez, vous dispersez, vous ne construisez rien. C'est Matthieu 12, 30. Cet état de distraction, c'est cet état, si vous voulez, par lequel, au fond, on est absent de soi-même. C'est dramatique. C'est dramatique, mais je crois néanmoins que c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Absent de soi-même, c'est-à-dire au fond, et c'est bien plus grave, absent de celui qui est l'éternel présent. De celui qui est perpétuellement présent à mes côtés. Pour nous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, si vous invitez quelqu'un chez vous, dites-moi donc, comment vous l'accueillez? Est-ce que vous le mettez au salon pour ensuite vous aller à la salle à manger et le laisser planter là-bas au salon? Voici ce que nous faisons, je ne peux pas dire constamment, mais quasi constamment avec le Christ. Nous le mettons dans un coin et nous allons ailleurs. Sous-entendu, cet ailleurs, évidemment, vaut mieux. Ce que l'on peut vivre avec lui. Nous nous laissons accaparer ainsi par le monde extérieur. son agitation. Si on vit dans la culture occidentale, ça devient chronique. Heureusement, c'est bien plus beau avec une ville de change. On peut rencontrer beaucoup de gens qui viennent d'autres cultures, qui nous montrent quand même que c'est notre Occident qui tourne par rond sur ce plan-là. Une autre façon de ne pas être présent à soi-même, c'est la curiosité. Combien d'attitudes sont dictées par une curiosité qui ne dit pas son nom? La curiositas, dans la tradition monastique, est un défaut qui est très souvent relevé. C'est pas seulement pour les moines. La curiositas au Moyen-Âge, c'est vraiment cet état par lequel l'homme, volontairement, décide de se quitter soi-même, de quitter son intérieur, de quitter son sanctuaire intérieur, pour se laisser captiver par quelque chose qui est beaucoup moins que ce qu'il trouve dans son intérieur. Le monde sait évidemment manier avec beaucoup d'habileté cette tendance humaine à la curiosité. Avec cette curiosité va de pair la futilité. On a beau se dire des gens très occupés, tout le monde est très occupé, et tout le monde a des choses hyper importantes à faire. Quand on regarde la fin de la journée, on se dit, mais ça, est-ce que c'était vraiment si important? Quel était le poids de cette activité devant l'éternité? Qu'est-ce qui va en rester? Futilité. Futilité, inconsistance, mirage, tout ce que vous voulez. C'est un peu comme, vous connaissez, si vous avez été un peu chasseur, je ne sais pas si on a parmi vous, mais on dit que les alouettes se laissent attirer par les miroirs, par tout ce qui brille. Nous sommes un peu ces alouettes qui nous laissons capter par l'inconsistance. Alors, voilà pour l'état de distraction. Existe-t-il de remède? Le remède le plus évident, le plus immédiat, mais qui fait transpirer, parce qu'on n'a jamais fini, c'est la meilleure antidote, c'est le perpétuel retour à son cœur. Je dis perpétuel, parce qu'il faut s'y reprendre tant et tant de fois dans une journée. C'est de cultiver, il s'agit de cultiver, cultiver ça fait transpirer, hein. Cultiver le souvenir de Dieu. Revenir à soi, à son sanctuaire habité par Dieu, c'est le temple de l'esprit, Paul l'a dit et répété sur tous les points. Revenir à ce sanctuaire intérieur où Dieu habite, 1000 fois par jour, s'il le faut. Sainte-Thérèse d'Avila a des très belles paroles à ce sujet. 1000 fois par jour, ça veut dire aussi, et là l'ennemi nous attend, sans découragement. La plupart du temps, ce qui nous arrête, c'est pas le fait d'être tombé, c'est le découragement. Alors l'ennemi a gagné. Dans la tradition occidentale, nous avons un moyen qu'on appelle les oraisons jaculatoires, ces brèves invocations, hein, qu'on lance comme une flèche dans le ciel, hein. Non pas pour faire revenir Dieu à soi, c'est pas lui qui nous a quittés, c'est nous qui l'avons quitté, pour revenir à lui, nous. Tandis que l'Orient pratique volontiers ce que vous connaissez, la prière du cœur. Voilà donc pour ce premier obstacle que j'ai appelé l'état de distraction. Je dis bien, c'est un état, malheureusement, c'est un état. C'est pas simplement une période ponctuelle de notre vie, c'est l'état le plus fréquent. Le deuxième obstacle à la prière, c'est certainement la paresse et la négligence. Tout simplement, bon, c'est pas méchant, si vous voulez, mais c'est tout simplement de laisser faire la pointe humaine. Donc, il n'y a pas de projet méchant, hein, délibéré, non. Mais on laisse faire. On laisse faire. Mais figurez-vous que c'est redoutable, pour plusieurs raisons. Parce que justement, comme ce n'est pas une décision méchante délibérée, ça paraît pas dangereux. Je peux pas me dire, ah oui, il a vraiment fait quelque chose de mal. Non, je sais que non, mais c'est clair. Je me souviens d'une fois avoir rencontré un prêtre qui m'a livré certainement un adage qu'il avait tiré de sa propre expérience. Je ne suis pas sûr de le citer textuellement, mais en tout cas l'idée c'était celle-ci. Et je me suis combien de fois dit à quel point c'est vrai, cette observation. Je vous la livre. Qui ne vit pas comme il pense, finit par penser comme il vit. C'est redoutable. Qui ne vit pas comme il pense, finit par penser comme il vit. Donc, il finit par justifier le mal. C'est dangereux, comme je le disais, parce que se laisser aller, qui paraît innocent, justement, il est trop caché pour éveiller ma conscience. Et en cela, il est dangereux. C'est comme un somnifère léger qu'on prend, puis on se rend pas compte qu'on s'endort. Mais à un moment, on est endormi. Et on ne saurait pas dire à quel moment on s'endort, mais le fait est qu'on dort. Ça fait pas de bruit, mais c'est redoutable, parce que ça contribue, si vous voulez, à une sorte d'installation lente et progressive. Et plus c'est lent et plus c'est progressif, plus c'est dangereux, parce que moi je m'aperçois, d'un état de léthargie. Et la léthargie, à la longue, c'est mortel. Quel remède? Un seul, je crois, auquel le Christ dans son évangile nous rappelle si souvent, la vigilance. Veillez. Combien de fois on a ce verbe dans les évangiles? Veillez. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il s'agit de l'heure dernière, mais veillez. Pas simplement pour être présent à l'heure dernière. La vigilance. C'est certainement, et on en trouvera bientôt dans le temps du carême, c'est certainement une thématique très présente dans le carême. Enfin, le troisième obstacle, et je ne prétends pas du tout être exhaustif, oui, à la prière, c'est l'abstention de prière, ce que j'appelle d'abord gentiment l'abstention de prière, qui peut aller jusqu'au refus délibéré de la prière. Cette abstention, là aussi, elle prend des couleurs assez innocentes. Par exemple, dans le fait qu'on ne fixe pas les vraies priorités dans sa vie. On a des priorités, oui, on a toujours des priorités. On n'a pas les bonnes priorités. Et en fait, à un moment, on doit quand même se poser cette question. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie? Je devrais même dire, qui est premier dans ma vie? De cette simple question découle toute une série de décisions. Je pense que un des grands maux de l'homme moderne, hyperactif, c'est qu'il ne sait pas hiérarchiser la valeur de ses engagements. Alors bien sûr, il vous dit, oui, mais je fais beaucoup de choses. Vous ne faites pas les bonnes choses. Mais en fait, vous ne faites pas en premier ce qui devrait être fait. Le remède, c'est donc une réflexion posée dans la vérité pour établir les vraies priorités. Cette deuxième abstention de prière, elle peut naître d'une trop grande dépendance, et ça c'est très fréquent, je suis sûr que vous allez sourire quand vous verrez ça, d'une trop grande dépendance de nos humeurs. Alors, ça dépend de la personne, c'est des questions de plus ou de moins. Mais enfin, je pense que nous sommes tous sujets à ce travers. Nous calquons notre ferveur sur la qualité de nos humeurs. Ce n'est pas des vers, hein, mais c'est quand même ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que selon les personnes, on a l'effet inverse, mais qui est tout aussi pervers. Il y a ceux qui prient beaucoup quand tout va bien, qui ne prient plus quand ça ne va plus. Puis il y a ceux qui font le contraire. Il y a ceux qui se mettent à prier beaucoup quand ça va plus, puis qui prient plus quand tout va bien. Et puis c'est peut-être nous, selon une période, hein, selon un schéma ou l'autre. Non. Non. Ça, c'est un caprice, ça, c'est un enfantillage, mais ce n'est pas la prière. Quel est le remède? Tout d'abord, et c'est important, une lutte acharnée contre mon égoïsme. Car cela révèle une chose. Je prie quand ça me fait plaisir, et je ne prie pas quand ça ne me fait pas plaisir. Autrement dit, l'important de cette démarche, c'est par l'interlocuteur de la prière, c'est le priant. C'est un petit peu limité. Mais observez-vous, regardez comment vous faites. Ça paraît peut-être cru de le dire comme ça, mais enfin, je crois qu'on touche là quelque chose de notre attitude fausse. Lutte contre mon égoïsme. Et la deuxième, et ça va de pair, c'est la constance. S'éduquer à la constance. Indépendante de mes états d'âme. S'il y a quelque chose, peut-être, s'il y a une chose que j'ai apprise au monastère, c'est celle-là. En fait, nous sommes des fiefs égoïstes. Nous faisons les choses quand ça nous intéresse, mais nous ne faisons pas quand ça nous intéresse. C'est ça, c'est aussi bête que ça, aussi caricatural, mais c'est quand même ennuyeux quand on calque cette attitude quand il s'agit de la relation. La première de toutes les relations, celle que l'on expérimente avec Dieu. Constance, acharnée, qui s'éduque. Constance qui va se manifester dans une persévérance dans le temps. J'ai découvert ce que c'était que le temps au monastère. J'ai découvert la première chose. Oui. Rien de solide et de durable ne s'établit sans le temps. Et là, évidemment, vous comprenez bien, vu la mentalité ambiante dans laquelle on vit, le chrétien, s'il veut être chrétien, doit faire le choix. Il ne peut pas ne pas se démarquer. Et en particulier dans sa manière de vivre le temps. Il y a des rythmes humains et spirituels qui sont incompressibles. Si on fait des avions, des voitures, parce que vous voulez des ordinateurs qui vont de plus en plus vite, c'est pas comme ça qu'on fonctionne l'être humain. Il y a cette place nécessaire à la croissance qui implique le temps. Cette abstention de prière au moins momentanée peut aller jusqu'à la décision délibérée de ne plus prier. En quelque sorte, on règle un peu ses comptes avec le bon Dieu. Tu n'as pas donné ça, tant pis pour toi. Je ne prierai plus. sans comprendre que la première victime, évidemment, c'est nous-mêmes. En fait, ça traduit aussi quelque chose de complètement faussé, le manque total, une fois de plus, de gratuit. Agir ainsi montre que, pour nous, la prière, c'est du donnant. 10 minutes de prière, tata, 15 minutes, à continuer de plus grand, tata, bon. Comment? T'as pas respecté le contrat? Ça, la prière. C'est vraiment horrible. J'ai peur que trop souvent nous fonctionnons de cette façon. Or, j'y reviendrai dans la dernière partie. Or, il est évident que la prière est une activité purement gratuite, qui renonce à fixer des obligations ou des conditions à Dieu. J'ai évoqué une difficulté certainement très fréquente de la prière, c'est ce que nous appelons, je dis nous, mais est-ce qu'il faudrait l'appeler comme ça? On devrait demander la vie de Dieu, je ne sais pas si nous en c'est ce que nous appelons, nous, le non-exaucement de la prière. Nous, petits hommes. Eh bien, il me semble que il y a là de nouveau quelque chose de faux. Autant il faut demander la prière. Et Jésus, même fois, nous a exhortés à demander avec la prière. Mais encore plus, ça paraît contradictoire, mais pourtant, je crois que c'est comme ça. Encore plus, il faut faire preuve de détachement par rapport à l'exaucement. Nous ne devons jamais renoncer à l'ennemi, mais nous devons toujours nous détacher quant à l'exaucement. Et j'oserais presque dire que les prières qui sont exaucées, ce sont ces prières-là, gratuites. Eh bien, on peut donc être déçu parce que nous appelons dans nos courtes vues un non-exaucement de la part de Dieu, ou on peut même être révolté. Cette révolte, au fond, est dramatique, parce que c'est le point exact où l'ennemi voulait nous conduire. L'abandon de la prière. Lorsqu'on lit les pères du désert, qui sont pleins de sagesse, de très concrets, il y a énormément de sentences qui portent sur la prière, sur la constance dans la prière, à travers la garde de la cellule, entre autres. Parce que les pères du désert ont fait cette expérience, elle est devenue pour eux une sagesse, une âme qui ne prie plus est déjà une âme perdue. Et ils savent que Satan n'est jamais plus actif que pour empêcher une âme de prier. Parce qu'une âme qui ne prie pas, c'est une âme qui est entre les mains de Dieu. Même si elle meurt, ça fiche le démon, ça suffit. Donc, il y a ici quelque chose de dramatique, d'effroyablement dangereux. Mais dans cette révolte, il y a aussi, et il faut le reconnaître, quelque chose de totalement injuste envers Dieu. Je ne dis pas que nous ne connaîtrons jamais la révolte, mais je dis qu'à chaque fois que ça se produit, si ça se produit, il faut avoir le courage de se demander pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? pas tellement qu'est-ce que ça cache du côté de Dieu, mais plutôt dans mon cœur. D'où cela naît-il dans mon cœur? Il y a tout un travail de clarification indispensable pour éviter de retomber périodiquement toujours dans le même travail. Il faut à un moment décider de faire la lumière, même si cette lumière ne sera jamais totale. Voilà, si vous voulez, pour répondre en partie, j'ai voulu isoler ces quelques obstacles très fréquents à la prière. Et poser la question, on va essayer d'y répondre, est-ce qu'il s'agit d'une pure utopie? Quand on voit la somme d'obstacles qui se présentent, on pourrait en fait se poser cette question. Pourtant, deuxième partie, c'est d'abord une nécessité. C'est d'abord une nécessité. À plusieurs titres que je me propose de rapidement présenter maintenant. Un des premiers effets de la prière auquel on pense peut-être pas, c'est celui de nous obliger à vivre en vérité. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Parce que si je suis l'évangile de Saint Jean, de ce que Jésus nous dit dans cet évangile, c'est à ce prix qu'est la liberté. La vérité vous rendra libre. Satan qui vit dans le mensonge est aussi celui qui en chaîne. Il a parfait corps en s'instant. Comment la prière nous oblige à vivre en vérité? Parce que d'abord, elle implique des relations fraternelles dans la charité. Si elle n'implique pas immédiatement, en tous les cas, elle devrait entraîner à des relations fraternelles dans la charité. C'est le Christ lui-même, dans ses enseignements de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, qui nous fait prendre conscience de cette cohérence nécessaire qui existe entre la charité, entre la prière et les relations entre les personnes. Si tu te souviens de m'en déposer ton offrande à l'autel, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, va te réconcilier, et ensuite tu viendras présenter ton offrande. Matthieu 5, 23, 24. Intéressant parce que Marc, en 11, 25, renverse la chose. Chez Matthieu, c'est donc, c'est mon frère qui a quelque chose contre moi. Bon. Entre nous, ça nécessite une lucidité. Et me rendre compte, alors parfois c'est criant, d'accord, ça n'est pas toujours, pour me rendre compte que mon frère ou ma sœur a quelque chose contre moi. Marc, lui, renverse les choses. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Et on tire la même leçon. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Une chose est sûre, que ça vienne d'un côté ou de l'autre, que ce soit partagé des deux côtés, le résultat est le même. Il y a nécessité de réconciliation avant de venir déposer son offrande. Et cela est magnifique parce que ça illustre une nouvelle fois, d'une façon peut-être inattendue, le fait qu'on ne peut pas séparer le double commandement de l'amour. Jean, dans sa première lettre, nous dit « Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère est un menteur ». L'Évangile nous dit, et c'est Jésus-même qui parle, citant le Deutéronome, qu'il n'y a qu'un seul commandement, il s'empresse d'un de les deux, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. La prière devient le lieu de la conversion, le lieu de l'unification entre les personnes, mais aussi dans mon propre cœur. Un deuxième élément très important auquel peut-être on ne pense pas suffisamment, c'est que la prière nous forme dans la foi. C'est pas seulement qu'on demande la foi dans la prière, mais c'est par l'attitude même qu'elle suppose que la prière nous fait grandir dans la foi. Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. C'est pas évident, ce n'est pas immédiat d'adhérer tout de suite à cette déclaration du Christ. Nous voyons très clairement qu'il y a comme une sorte de croissance parallèle entre la foi et l'intensité de la prière. Là encore, Marc, j'ai cité le nom Matthieu 21-22, Marc apporte une nuance différente, encore plus forte, parce qu'elle dépasse la logique rationnelle. C'est Marc 11-24. Tout ce que vous avez demandé dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous l'obtiendrez. Comment peut-on avoir déjà quelque chose qu'on n'a pas? Et ça, c'est la foi. Regardez combien de fois, sans jeu de mots, dans les évangiles, Jésus, avant d'agir, veut s'assurer de la foi de celui qui demande. Combien de fois, avant les guérisons, crois-tu vraiment que je veux? Et combien de fois cette réflexion va ta foi t'a sauvé? Une prière avait été faite, une demande avait été faite, ta foi t'a sauvé. Tu as été exaucé parce que tu as la foi. Remarquez bien que, et c'est très sensible chez saint Marc, les miracles ne sont pas faits pour obtenir la foi, mais pour confirmer la foi. Et il est remarquable que dans son propre village Nazareth, nous est dit que Jésus fit peu de miracles parce qu'il n'avait pas la foi. Jésus renonce à l'utilisation, je veux dire, magique des miracles. Les miracles sont déjà pour ceux qui croient. La prière, si nous avons quitté la vérité, nous y remet. De nouveau, Matthieu 7-21, ce ne sont pas ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui gardent ma parole. Jésus ne nous interdit pas de crier « Seigneur, Seigneur », mais il veut que ce soit accompagné d'une vie en cohérence avec ce cri. Matthieu 15-8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Citation de Isaïe 29-13. Ou de nouveau, la parole dite dans la prière n'est pas en accord avec le cœur. C'est un point sur lequel saint Benoît, dans sa règle, il en fait même un instrument de ce qu'il appelle les instruments de bonnes œuvres. Il y a tout un chapitre aussi sur la prière, dans la prière liturgique. Et il illustre ce principe que justement, les lèvres doivent être en accord avec le cœur. Saint Bernard a dit la même chose dans les images. Il utilise des images. Il raconte cette vision qu'il a eue. Bon, je ne sais pas si c'est authentique ou non, mais l'idée, en tout cas, elle est là. où il voyait le cœur des moines de Clairvaux, quand il était l'abbé, et à côté de chaque moine, il y avait un ange. Il y avait un ange qui écrivait. Alors, certains anges, ils écrivaient avec une encre dorée. Les autres, c'était seulement couleur d'argent. Les autres, c'était noir. Les autres, c'était un peu pâle. Puis, les autres, c'était avec de l'eau. Et puis, il y en avait qui écrivaient. Et la lecture qu'il fait de cette vision, c'est justement le degré d'intensité de la prière, de correspondance entre ce qui était proclamé, chanté par les moines, et l'adhésion de leur cœur. Donc on avait tous les détails. Dieu soit loué, c'est un peu aussi le mystère de l'Église, on peut s'appuyer de temps en temps sur ceux qui chantent doré, si vous voulez, quand soi-même on est ailleurs. La prière aussi rempart contre la tentation. C'est d'abord très clair dans la prière que Jésus nous a enseignée, la seule qui nous est laissée, puisque dans notre Père, nous le demandons, il nous dit de le demander, nous ne nous soumettons pas à la tentation. Je ne ferai pas l'exégèse de la traduction française, parce qu'on en avait jusqu'à demain matin et encore. Mais en tous les cas, ce que je vois, c'est que Jésus nous demande d'implorer ardemment, d'en faire une prière, son secours dans la tentation. Et puis, dans un paroxysme que Jésus a vécu à Gethsémani, je cite encore Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » C'est là que nous comprenons, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à quel point Satan sait exploiter notre faiblesse quand, au moment où nous sommes précisément le plus exposés, où nous avons le plus besoin de prier, il nous fait baisser le bras. J'allais dire, on est doublement pénalisé. On devrait prier plus parce qu'on a mangé ou on renonce à prier. Ah, pour lui, c'est facile. Matthieu encore, 17, 21, cette sorte de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Si un texte qu'on entend, au moment du carême, évidemment. Mais pas seulement pour le carême, pour toute l'année. Donc, on voyait très clairement qu'il n'y a pas 36 manières de vaincre la tentation. Le jeûne et la prière. Il me semble que, on pourrait allonger les citations, mais je pense avec ça, on a un aperçu assez clair. Il me semble qu'il devient maintenant assez clair que la prière est nécessaire. Pourtant, est-ce que c'est suffisant de dire que peut-être qu'elle n'est pas une utopie, qu'elle est certainement en tout cas nécessaire? Est-ce suffisant? Je m'arrive évidemment à mon troisième point. Pour souligner, et au fond c'est le point le plus important, pour souligner que si prière il y a, c'est pour manifester l'existence d'une relation. C'est d'abord et principalement pour ça. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on peut simplement présenter la prière comme l'exécution d'un commandement, ou bien, si on est un peu lucide, comme une nécessité, parce qu'on voit que sans la prière, on n'arrive pas à s'en sortir. Je crois que c'est un peu court. Parce que si on saisit bien qu'il s'agit là d'exprimer la réalité d'une relation, alors je crois que tout ce qui précède a besoin d'être encore approfondi. Il s'agit en effet de saisir que c'est à travers la prière que nous exprimons plusieurs choses. La qualité de notre relation, l'assiduité de cette relation, l'intensité de cette relation. Une relation qui n'est pas n'importe quelle relation, puisque c'est la première de toutes, primordiale, la relation avec Dieu. Il faut donc dire que la prière manifeste la réalité de notre relation. De notre relation avec Dieu, où le sujet le plus important est Dieu. Parce que, de son côté, il est toujours présent, il est toujours disponible, il est toujours en attente. En un mot, il est toujours aimant. Quand j'observe la négligence avec laquelle nous prions, ou surtout nous ne prions pas, je suis quand même assez époustouflé. Je crois que, froidement et sans regret, nous faisons subir à Dieu quelque chose qu'on n'aurait jamais, pardonnez-moi, le culot de faire subir à un être humain qu'on a en face de soi. Cela traduit pour moi, et là, c'est ça que nous devons creuser, un manque total de réalisme dans notre relation à Dieu. Nous le traitons de fait comme inexistant. Et je le dis d'une façon telle qu'on n'oserait jamais le faire avec aucun autre. Mais pour Dieu, pas de problème. Il faut s'observer là-dessus. Le deuxième point que j'aimerais relever, c'est que la prière, si elle est l'expression d'un amour, elle va de soi. Est-ce qu'on a besoin à un amoureux ou un amoureux, à une amoureuse de dire « Écoute, tu penses à lui, tu penses à elle, t'oublies pas, hein ?» On n'a évidemment pas besoin. Tu n'oublieras pas lui parler, hein. Tu n'oublieras pas lui dire que tu l'aimes. Évidemment, non. Ça serait totalement déplacé. On aurait de sérieuses raisons de se demander si vraiment elle s'aime. C'est un fait que les amoureux, quand on s'aime, on a besoin de se le dire. Et je me demande quelle figure ferait un fiancé si sa fiancée lui répondait « Mais écoute, tu l'as déjà dit, ça va, t'as compris. T'as compris, tu l'as déjà dit, je sais tout. » Non. Saint Augustin, dans un de ses sermons, un sermon pour Pâques, quand il commente l'évangile de la résurrection, où Jésus apparaît à Marie-Madeleine, une remarque très précieuse. D'ailleurs, vous remarquerez que dans toutes les apparitions, c'est le même processus. Jésus ne se fait jamais reconnaître immédiatement. Jésus veut se faire désirer. Jésus veut obliger l'homme à déclarer son amour. Et, ajoute saint Augustin, parce qu'en déclarant son amour, il grandit dans l'amour. Et c'est pourquoi les amoureux ont tout le temps envie de se dire « Je t'aime ». Parce qu'en le disant, ils suscitent encore plus fort ce sentiment, cette réalité, cette relation et la font grandir. Donc, la prière, c'est une question d'amour. Pourtant, dans la pratique, c'est vrai qu'il n'est pas si facile de prier. Je crois qu'on l'a dit assez longuement. Peut-être que là, il faut s'arrêter un moment sur les formes de la prière. Parce que j'ai l'impression que nous avons bien trop souvent une vision beaucoup trop étriquée de ce qu'est la prière, de ce que peut être la prière, et ses modes d'expression, qui justement sont très divers. Est-ce que je prie simplement si je suis à genoux les mains jointes? Est-ce que je prie simplement si je suis à l'église ou dans un oratoire? Est-ce que je prie simplement le dimanche matin pour la messe dominicale? Ou peut-être, si c'est mieux, le matin et le soir? Mine de rien, dans ces trois questions, nous voyons trois choses importantes. La posture de la prière, l'espace de la prière, le temps de la prière. Le temps de donner qui sont pour l'homme des conditionnements. Ce qu'on va dire, il est évident qu'il y a des postures qui aident à la prière, il y a des lieux qui aident à la prière, il y a des moments qui aident. Mais favoriser ne veut pas dire que ce sont les seuls moments, les seuls lieux ou les seules attitudes. Si je crois que c'est très important. Parce que si la prière est un état, cet état ne dépend que de moi, de le transposer dans un maximum possible de situations. De même que je respire si je suis à Bourguignon, je respire si je suis à Ribourg, je respire si je suis à Trier. Oui, heureusement pour moi. Hein? Donc, voilà. Et c'est là qu'on saisit peut-être l'importance d'un verset des psaumes que je cite dans la traduction du psautier chrétien, qui est en fait la traduction du français liturgique. C'est le psaume 108, au verset 4. Où le psalmiste, en but à plein de lui, s'étonne en disant « Je ne suis que prière. » Expression évidemment intéressante parce qu'il ne s'agit pas de faire de la prière, de faire de prière, il s'agit d'être prière. Saint Paul, dans son expression du départ, nous dit bien « prier ». Donc, je pense qu'il est clair, je l'ai souligné un peu avant, qu'il y a des lieux, il y a des moments, il y a des attitudes qui privilégient pour nous aider. Il y a aussi l'aspect double, l'aspect de la prière personnelle, l'aspect de la prière communautaire en Église. Là, je crois qu'il est important de voir qu'on ne peut faire l'économie ni de l'une ni de l'autre. Il est très important que nous puissions, à certains moments, nous retrouver seuls à seuls avec Dieu. Nous avons besoin de ces moments pour nous construire sous son regard. Mais aussi, nous avons besoin de tout ce capital immense accumulé par l'Église au cours des siècles, à travers sa liturgie. Et nous avons besoin du soutien de frères et de sœurs qui, peut-être, au moment où nous allons à la prière en traînant les pieds, bien eux, ils vont avec enthousiasme. C'est qui va nous permettre de, quelque part, de nous joindre à leur mouvement. Au cours d'une journée, si nous réfléchissons bien, nous avons beaucoup de ce que nous appelons, même si nous essayons de les éliminer au maximum, de faire en tout cas, de les rétrécir au maximum, on a ce qu'on appelle, terrible expression, les temps morts. C'est effroyable, l'expression. Comme s'il y avait comme ça des parenthèses dans la vie qui valent pas la peine de vivre plus, qui sont morts. Mais je crois que dans ce temps mort, voilà bien un lieu de prière. Il y a ce moment où on doit se déplacer d'un lieu à un autre, monter les escaliers, descendre les escaliers, toujours en vie. Il y a les moments de loisir, il y a les moments de travail. Enfin bref, tout moment interdit Dieu. Tout moment mérite d'être inclus dans la prière. Et il est vrai que certaines de nos activités sont particulièrement prenantes, mais nous pouvons être en état de prière par l'intention profonde de notre cœur. Et nous ne devons pas non plus confondre la prière avec un exercice purement intellectuel, ce que nous faisons souvent. Non pas que la prière doit être déraisonnable, l'intelligence à sa place, mais ce n'est pas le seul critère à voir. Je pense que on a ici suffisamment d'éléments pour mieux comprendre maintenant que la prière est comme une sorte d'élan de fond, soutenu par des élans particuliers. On avait un frère en communauté qui avait, je trouve, une très belle manière d'exprimer les choses. Donc vous savez que cette fois le jour, comme dit la reine de Saint-Benoît, comme moi, nous nous retrouvons au cœur pour chanter la louange de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans les intervalles? Est-ce qu'on prie plus? Est-ce que je n'ai plus? Oui, c'est la question. On raconte, mais bon, on raconte ça dans plein de villes. On raconte qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, les braves chanoines de la cathédrale de Varsovie étaient en train de chanter le culte. Et voilà que les avions allemands commencent à tourner en l'air, à bombarder la ville. Donc ils chantaient le culte. Et voilà qu'un chanoine sort son chapelet en disant à ses frères, mes frères, prions. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Ils étaient à l'office, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Vous voyez, mais nous avons quand même des mécanismes un peu tordus. Bon. Donc la prière comme une sorte d'élan de fond qui a besoin d'être soutenu par des élans privilégiés particuliers. Alors ce frère, pour revenir à lui, il disait, la prière on peut la comparer à une autoroute. Pour prendre les autoroutes en Suisse, il y a une multitude d'œuvres, d'ouvrages d'art pour soutenir ces autoroutes qui passent au long de vallées, de montagnes. Mais il y a une chose évidente que les ingénieurs ont compris depuis longtemps, c'est que si j'espace mes poteaux, en disant mes piliers de pont d'un kilomètre, ça risque de ne pas être très solide. Donc je dois les rapprocher, je ne sais pas, 100 mètres, 350 mètres, 200 mètres, 300 mètres, plus partout. Mais toujours est-il qu'on a compris que pour soutenir le parapet de cette route, il faut qu'il y ait suffisamment de piliers. Eh bien, la prière, si vous voulez, pour le moine, vous la voyez comme cette grande route, cette autoroute. Et les offices, ben voilà, c'était les piliers qui vont soutenir. Mais voyez bien, entre chaque pilier, la route ne s'arrête pas. Sinon, je ne sais pas comment on fait, on va vraiment traverser la route. Ça continue. C'est une image qui parle. Saint Thérèse parle d'une autre manière, je vais bientôt dans la tête. Saint Thérèse dit, lorsque un artiste à qui on a commandé une œuvre, Monsieur X commande une œuvre à au peintre Hérodique. Est-ce que Monsieur X, pardon, est-ce que le peintre Y a besoin de sans cesse se répéter, c'est pour Monsieur X que je fais ça, c'est pour Monsieur X que je fais ça? Non. Évidemment, non. Il met tout son cœur dans l'œuvre qu'il fait. Et c'est en cela qu'il travaille pour Monsieur X. Voilà. Comprenez? Donc, c'est là où je vois cet élan intérieur. Hein. Cet élan intérieur de fond, si vous voulez. Comme une sorte de source qui coule. Sans s'interrompre. J'ai pas besoin d'être là pour épuiser. Et puis, de temps en temps, eh bien, il faut la source. Je vais m'arrêter ici, en répondant formellement à la question de départ, de cette fameuse exhortation de Saint-Paul à prier sans cesse. Est-ce qu'il s'agit d'une utopie? Je crois que c'est être défaitiste de le dire et de le soutenir. C'est soit être défaitiste, soit n'avoir jamais voulu en tenter l'expérience. Est-ce qu'il s'agit d'une simple nécessité? Bien sûr, il y a une nécessité absolue, mais ce n'est pas suffisant. Je crois tout simplement que c'est une question d'amour.